Je ne sais pas si vous êtes inspiré, mais il y a beaucoup de gens à table pour vous parler de la réalité, de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Il manque que vous, hein, vous avez qu'à faire vos commentaires sur la page canalem.vusezvoix.com ou sur Facebook. Et vous le savez certainement, cette année, comme les autres, c'est le 3 décembre qu'on tient la Journée internationale des personnes handicapées de l'ONU. Et cette année, on a opté pour une question. Je ne sais pas si ça vous inspire, mais la question, c'est quelle transformation durable pour une société plus inclusive? Alors, je vais vous poser la question à tous et toutes qui êtes ici. On a avec nous au téléphone, en plein transport adapté, Laurent Morissette du Raplic. Bonjour, Laurent.
Allô, Benoît.
Bon, il semble que le transport soit légèrement en retard.
Ben, en fait, j'ai pris le réseau de surface.
Ah!
J'ai eu 3 autobus sur 3 non fonctionnels. Le quatrième, il fonctionnait. Moi, j'ai pris la ligne 24, donc c'est une des lignes majeures de Montréal. Puis, je peux toujours pas comprendre pourquoi les lignes majeures ne sont pas plus fonctionnelles que ça, là.
Bon, ben, votre sondage est déjà fait. 3 en 3, ça marchait pas. Et ça nous rappelle que le transport, c'est souvent un thème important. Est-ce que vous trouvez que ça a bien évolué avec le temps, le transport adapté à Montréal, par exemple?
Ben, il y a certaines évolutions, évidemment, excusez pour le bruit, là, je suis dehors pour le. Et puis, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. On est souvent pris en otage des contraintes, puis des paramètres qu'on ne contrôle pas vraiment. Puis aussi pour la question du confort aussi, c'est une chose importante aussi, mais on est encore pris. Il y a beaucoup d'évolutions, mais comme je dis, on est encore pris en otage un petit peu. Là, c'est sûr que le terme est un peu fort peut-être, mais c'est comme ça que moi je le sens personnellement. Fait que j'imagine que le reste des éducateurs ont un peu cette même perception.
Oui, je suis persuadé que vous n'êtes pas le seul à le constater. Laurent Morissette, je rappelle que vous êtes président par intérim du Raplic. Vous défendez les personnes en situation d'handicap. Est-ce que ça va?
Oui, ça va, ça va.
OK, excusez. Donc, vous défendez les personnes en situation de handicap, mais souvent les personnes qui ont une déficience motrice. Avec nous, d'autres personnes qui interviennent, qui travaillent avec les personnes en situation de handicap, notamment Carole Zambiello, qui est spécialiste en orientation et mobilité à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Je veux juste rappeler que non seulement vous enseignez aux personnes non-voyantes à se déplacer en toute sécurité, mais vous intervenez souvent aussi pour l'accessibilité sur le plan municipal. Alors, bonjour, Carole Zambiello.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Au téléphone, toujours pour les droits des personnes aveugles, Yvan Provencher du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Bonjour, Yvan.
Bonjour Benoît.
Alors, on a décidé de vous inviter ainsi que votre collègue Carole Zambiello. Je sais que vous travaillez souvent ensemble.
Exact.
Bon, alors on entendra plus tard ce que vous pensez de cette journée de l'avancement des droits. Est à table avec nous aussi Ghislaine Goulet, qui est coordonnatrice du comité régional des associations pour la déficience intellectuelle, le CRADI. Bonjour Ghislaine.
Bonjour Benoît.
Alors, vous vous ajoutez parce que souvent, les personnes en situation de handicap, on pense à elles comme des personnes qui ont des déficiences motrices, un peu moins comme des personnes aveugles, mais très rarement comme une personne qui présente une déficience intellectuelle.
Effectivement, les personnes, comme c'est moins visible, sont souvent oubliées.
Ouais.
Sont oubliées sur tous les paliers gouvernementaux, d'ailleurs.
Ouais.
Et je voudrais juste ajouter que nous représentons aussi les associations pour les personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme.
Ouais.
Puis eux aussi, malgré le fait que le gouvernement provincial s'attarde un peu plus aux enfants,
ouais,
mais que dès qu'ils passent à l'âge adulte, sont oubliés.
Mais ça, c'est vraiment un enjeu important, surtout chez les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Mais je pense que de manière générale, vous êtes tous d'accord avec moi, c'est difficile. On sent beaucoup d'attention pour les jeunes personnes en situation de handicap, hein? Mais aussitôt qu'on passe à certains âges, ça devient compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, tout le monde autour.
Moi, je dirais que oui, effectivement. Quand on est jeune, on a une équipe multidisciplinaire qui est autour de nous pour nous évaluer notre évolution.
Mm-hmm.
Mais dès qu'on passe à l'âge adulte, on n'a plus grand-chose. C'est comme la méthode Lean, pas mal. C'est des services à la pièce, si vraiment on a besoin. Puis il n'y a,
ouais,
pas vraiment de suivi. Je veux dire, on pourrait être en train de tomber dans la rue, puis on n'aurait pas de physiothérapeute, pas rien. Il faudrait les concerter à la pièce, comme je dis. Donc oui, c'est un fait que que vous soulevez là, c'est un fait okay. avéré.
Et Mme Zambiello avait envie d'intervenir. Yvon Provencher aussi. Mme Zambiello, d'abord.
Bien, moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que peut-être dans la déficience motrice, c'est comme ça, mais au niveau de la déficience visuelle, c'est un peu moins comme ça.
Ah oui?
Peut-être parce qu'on est moins donc, au niveau de la déficience visuelle, mais j'ai pas l'impression que parce que tu es un adulte, tu es laissé de côté. Ça, j'ai jamais vu ça parce qu'on a des programmes pour le travail, pour le maintien au travail et tout ça. Et alors, je ne crois pas que
c'est
aussi...
Il n'y a pas de distinction.
Non, non, parce que c'est de 0 à 100 ans ben, et plus, nous, avec lesquels on intervient, alors...
Oui, bien, avouons que la baisse vision vient assez facilement avec l'âge.
Oui, aussi.
Quand
oui.
même. Yvon Provencher, est-ce que Carole Zambiello de l'Institut Nazareth Louis Braille dit vous parle?
Moi aussi, je nuancerais un peu. Puis là, on faudrait parler, si on voulait aller plus loin, il faudrait parler avec des parents. Mais j'ai l'impression qu'au scolaire, la possibilité pour les étudiants au niveau, je dirais, secondaire et élémentaire, là, moi, je questionnerais ça. Je serais curieux de savoir si ça a avancé à ce point-là. Mmh. Parce que les étudiants, souvent, vont... On parlait justement de ça avec des membres ici la semaine dernière, notamment sur l'enseignement du braille.
Oui.
Souvent, le braille est considéré comme quelque chose pour pallier, alors que en fait, c'est un mode d'alphabétisation. C'est une façon d'accéder à la culture et à la connaissance. Et je suis pas certain qu'au niveau scolaire... les élèves sont bien desservis sur ce plan-là. Alors, je ne suis pas sûr que c'est si vrai que ça, qu'une fois qu'on a 18 ans et plus, qu'on est laissé pour compte. Là, je nuancerais moi aussi là-dessus. Là.
Bon, très bien. Il faudrait faire une avancée des chevaux dans les différentes écuries, là, puis montrer c'est quoi pour chacun l'avancement des droits. Mais j'aurais envie, avant qu'on se concentre peut-être un peu plus sur, entre autres, ce que vous vivez, les personnes aveugles, eu égard à l'avancement des droits, j'aurais envie de vous poser la question. Bon, c'est la journée internationale, ou c'était la journée internationale des personnes handicapées. C'est quoi l'enjeu le plus important sur lequel on devrait se concentrer maintenant, brièvement, pour chacun, chacune d'entre vous? Ghislaine Goulet, du CRADI.
L'enjeu principal, puis je vais essayer d'être brève, c'est l'accès aux services. Mm-hmm. Autant l'accès aux services au niveau de la petite enfance pour la stimulation précoce. Oui, il y a eu des argents ajoutés au niveau des programmes pour les enfants avec troubles du spectre de l'autisme. Cependant, pour desservir plus de personnes, certains centres de réadaptation ont décidé, au lieu de donner le 40 heures, de donner 20 heures, malgré que les études disent qu'il faudrait une période de 40 heures. Donc ça, pour les enfants. Pour ce qui est des adultes, mais c'est à la fin de la scolarisation, à 21 ans, c'est le vide.
Ah ouais,
c'est les murs, c'est les listes d'attente. Donc, autant pour les personnes qui veulent avoir accès à des services pour apprendre les apprentissages au travail, autant que les personnes qui ont besoin de centres d'activité de jour.
Donc, c'est ça. Et les personnes qui ont plus de 21 ans, je pense que c'est pas seulement les personnes qui présentent une déni lapsus.
Un déni droit, oui.
Un déni droit, oui, c'est ça. Une déficience intellectuelle, donc, qui vivent ça, hein, cette rupture dans la continuité des services. Je pense que c'est le cas aussi pour les personnes qui présentent une déficience motrice. Vous en avez un peu parlé tantôt, Laurent Morissette, en disant qu'il y avait peut-être pas toutes les ressources comme quand on est plus jeune. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça sera un enjeu, l'accès aux services?
Je suis vraiment d'accord que un des enjeux fondamentaux, c'est vraiment, oui, l'accès aux services. Mais je mettrais aussi un enfant sur l'habitation, l'accès à l'habitation aussi comme on sait, c'est qu'on a demandé en coopération avec Seco, justement, on a participé à une demande pour avoir, comme par exemple, infologie.
Oui.
Accessible. Donc, c'est une des priorités. Oui, on pourrait penser que pour le rappeler que la priorité ultime, c'est vraiment le transport. Évidemment, c'est une des priorités fondatrices de notre action, mais pour aussi être capable d'habiter à des endroits assez facilement, puis à coût raisonnable aussi, parce que louer un logement comme ça, qui n'est pas accessible ou qui est moyennement accessible, ça peut coûter les yeux de la tête. Là, donc,
oui, bien sûr. Okay. Et donc, vous l'exprimez assez clairement, c'est bien de pouvoir se déplacer, c'est pas encore facile, mais il faut au moins résider quelque part de manière sécuritaire, accessible, avant de pouvoir se déplacer. Enfin,
ça va de toi, parce que, bon, tu ne peux pas passer ta vie dans les autobus, là, je veux dire, il faut quand même être capable de dormir quelque part. Alors,
oui, c'est ça.
Pour nous, c'est fondamental aussi, là.
On s'entend là-dessus, c'est certainement un droit fondamental. On se retrouve après cet incident musical. Je vais essayer de voir avec vous si la perception a changé et si les communications aussi, c'est important. Quand on pense aux droits des personnes en situation de handicap?
Question. Saviez-vous que le 3 décembre était la Journée internationale des personnes handicapées? Qu'est-ce que cela vous inspire?
L'accès aux services, l'inclusion, la perception, tout ça, ce sont des choses qui nous inspirent parce que ça, c'est censé être dans les composantes normales de la vie. Et avec nous, on a Laurent Morissette du RAPLIC, Carole Zambiello de l'Institut Nazareth et Louis Braille, Yvon Provencher du RAM pour défendre les droits des personnes aveugles en BLIOP et Ghislaine Goulet, coordonnatrice du CRADI. Vous êtes avec nous, Laurent Morissette. Est-ce que vous avez réussi à trouver un endroit calme malgré le manque de transport?
Ben, en fait, je suis rentré dans le métro Sherbrooke. Ça devrait être moins pire.
Bon. Et donc, comme vous avez réussi à vous mettre un peu au chaud, je vous poserai la question. L'inclusion, est-ce que c'est possible aujourd'hui, même si on célèbre là, l'avancement des droits des personnes handicapées?
L'inclusion, c'est possible. La question, c'est est-ce qu'elle est réellement voulue? Ça, c'est une autre chose.
Ah ah.
Parce que pour moi, il y a une nuance à faire. C'est que il y a beaucoup de vieux qui disent oui, il faut avoir des stations de métro, il faut avoir. Mais j'ai l'impression qu'il manque de vision à long terme.
Oui.
Je veux dire, parce que si je regarde par exemple, j'ai vu une vidéo ce matin sur Facebook de la station des stations de métro sur Paris, là.
Mm-hmm.
Ils sont à peine à 3% d'accessibilité. Bon, ici, on peut s'enorgueillir. C'est un petit peu plus, là. C'est, je pense que c'est quoi, là? C'est 10% maintenant qu'on a, là.
On approche du 10, oui.
C'est déjà mieux, mais qu'est-ce que les gens du métro de Paris disaient, ben, c'est que il n'y a pas de raison pourquoi la mise en activité à Paris n'est pas plus grande que ça, parce qu'il y a beaucoup de stations qui sont beaucoup moins profondes que celle de Londres, par exemple. Mm. Donc, c'est vraiment, une problématique globale, mondiale, que si vous n'êtes pas confronté à la problématique de l'accessibilité universelle, ben
vous la voyez pas, sans jeu de mots, là. Vous la comprenez pas, ouais.
Il y a aussi une chose importante à dire, c'est que, comme tu disais dans la vidéo, c'est que quand il y a eu les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de Londres, récemment, il y a eu aussi les Jeux Paralympiques, donc ça a donné une poussée importante. Mm-hmm. Alors qu'ici, à Montréal, à l'époque de 1965, quand il y a eu les Jeux Paralympiques étaient ailleurs.
Ouais, mais puis, les personnes en situation de handicap n'avaient pas encore de droits civils, aucun en fait. Mais on parle souvent de l'avancement des droits pour tous les groupes. On a avec nous aussi Yvon Provencher. Yvon, est-ce que l'inclusion va mieux pour les personnes aveugles, amblyopes, qui ont aussi une basse vision au Québec?
Ça, c'est une question. Ben, pour le Québec, je pourrais pas parler, là, parce que
Mais mettons pour Montréal.
Mais l'inclusion, c'est quelque chose d'extrêmement large. Alors,
ouais.
De dire qu'on est plus inclus aujourd'hui que v'là 10 ans, je suis pas sûr. Mm. Je suis pas certain, moi, que la perception des personnes, je peux parler des personnes aveugles, malvoyantes, mais c'est peut-être vrai aussi pour l'ensemble des personnes qui ont des limitations. Je suis pas certain que ça avance tant que ça. Je pense que c'est quelque chose qui est long à obtenir. Et bien sûr, on peut souhaiter l'amélioration de la législation au Québec. Là, c'est un peu mou. On peut dire ça. Je pense qu'on...
Beaucoup de gens pointent la loi comme étant le problème.
Mais ceci dit, les changements d'attitude, ça, à mon avis, ça ne se légifère pas.
Mm.
Alors, on a beau avoir toutes les obligations légales qu'on voudra mettre, pour être vraiment inclus, il faut aussi que l'inclusion passe par les attitudes dans la société en général. Et ce bout-là, je pense que les progrès se font, mais très, très lentement. Des fois, c'est un peu décourageant, là, mais je pense qu'on avance, mais c'est très, très long. Les attitudes sont très longues à changer.
Et
oui.
Pour que ces attitudes-là ne soient plus discriminatoires, parce que c'est ça que vous sous-entendez, qu'est-ce qu'il faut améliorer là, au niveau de l'accessibilité? Je sais que vous avez souvent des enjeux au niveau des communications, notamment. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose dans ce sens-là?
Bien, comme je disais, on peut toujours émettre des obligations légales, mais ça, après, c'est le comment on fait ça. Et c'est là où le travail se fait souvent de un à un. En aménagement, vous demandez tout à l'heure, c'était quoi des enjeux? Bien, un des enjeux très, très importants pour les personnes qui ont une déficience visuelle, mais c'est vrai pour d'autres, là, c'est la question des déplacements. Alors, les déplacements, ça passe par des aménagements qui sont universellement accessibles.
Mm-hmm.
Une fois qu'on a dit qu'on veut ça, après ça, il faut expliquer comment on fait ça. Et là, c'est du travail d'éducation. Et là, ça se fait souvent de un à un. Ça se fait par des contacts. Ça se fait par « j'explique la situation ». Madame Zabiello fait la même chose. Et c'est souvent par là qu'on fait des changements, mais c'est des changements à petite échelle.
Ouais.
Alors, parce que la législation, ça peut imposer des obligations, mais après, il faut passer par, une fois qu'on a dit qu'on devait faire quelque chose, il faut après trouver les façons de le faire. Et ça passe beaucoup par la sensibilisation, l'éducation, la formation.
Mais même la négociation.
Il y aurait des bouts à faire sur la formation, mais il va rester un travail de sensibilisation à faire quand même.
Madame Zambiello, est-ce que vous pensez aussi qu'on doit faire la pédagogie, qu'on est encore rendu là?
Oui. Moi, lorsque je travaille avec les villes ou avec les instances gouvernementales et qu'on parle d'accessibilité universelle, les gens pensent mobilité réduite. Et moi, l'accessibilité universelle, c'est pas ça la définition. La définition, c'est pour tous. OK? Puis souvent, je ressors la définition pour qu'ils comprennent.
Mm-hmm.
Alors, si moi, je propose un aménagement, comme Yvon disait, OK, pour N'importe quoi. Je sais que je fais quelque chose qui va aider beaucoup de monde. Je vais aider la personne âgée qui veut traverser une intersection. Mm-hmm. Je vais aider peut-être quelqu'un qui a une poussette, OK, puis que le bateau pavé va être mieux. Je vais aider celui qui livre, le livreur. Tu sais, c'est à ça qu'il faut penser, OK? Mm-hmm. Puis quand on fait ces choses-là, c'est à tout le monde qu'il faut penser, puis il faut que ça soit clair, que ça soit uniforme, que ça soit fluide. Et c'est ça qui est difficile actuellement.
Il faut convaincre, dans le fond, les élus, les décideurs, à penser à tout ce monde-là, sans oublier les personnes qui ont une déficience intellectuelle, Ghislaine Goulet.
Oui, je veux faire des pouces sur ce que vous venez de dire, parce que, le Crédit a beaucoup travaillé avec la Ville de Montréal afin de rendre sa plateforme Internet accessible. Mm-hmm. Et juste avant les élections de Montréal, j'ai tenté avec une personne qui présente une déficience intellectuelle de dire, est-ce que tu peux aller sur le site de Montréal et aller chercher l'information concernant les prochaines élections? Et la personne m'a dit, j'ai pris deux heures et je n'ai jamais trouvé. Mm. Quand moi, j'ai été sur le site, oui, tout a été écrit en langage simple, mais pour avoir accès, c'est un petit logo en bas de la page d'introduction.
Complètement invisible.
Pratiquement invisible, qui s'appelle « Accès simple ». Mm-hmm. Et si je vois ce logo-là, est-ce que vous et moi, vous ou la population va dire « Ah, c'est le langage simplifié, mm-hmm. c'est donc accessible pour les gens qui ont des problèmes de littératie aussi. Ouais. » Alors, quand on parle de l'accessibilité universelle, c'est pour tous, mais nous aussi, c'est ce qu'on dit, c'est pour tous.
Et ça inclut l'information. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des radios, puis vous et voix, pour que l'information se rende à tous et toutes, peu importe si on voit ou pas. On nous reste encore assez peu de temps. Évidemment, les enjeux sont incroyables. J'oserais vous poser la question en terminant. Est-ce que vous croyez toujours dans la loi cadre qui devrait arriver? Parce qu'on a parlé des attitudes, là, mais les instruments législatifs sont importants. Je suis sûr que Laurent Morissette pourrait nous le rappeler. Est-ce que vous y croyez qu'au niveau canadien, la loi pourrait changer les choses, au-delà des attitudes?
Allez-y
si vous êtes beaucoup à y aller. Mais Carole Zambiello voulait ajouter quelque chose, peut-être en quelques mots, puis on va passer la parole à Laurent aussi.
Moi, je voulais dire qu'aux États-Unis, il y a une loi depuis, je pense, c'est 1994.
94, oui.
Et lorsqu'on va dans les villes, c'est accessible. T'sais, il y a toujours des tuiles podotactiles. Les ascenseurs sont aménagés. En tout cas, toutes les choses là, qu'il faut mettre, la loi est écrite et les gens doivent la suivre.
Donc, c'est un bon départ, ça donne un vrai coup pour convaincre les gens d'aménager autrement, en tout cas. Laurent Morissette, on doit partir bientôt, mais écoutez, en un mot, est-ce que vous y croyez ou non à la loi canadienne qui s'en vient?
J'aimerais bien y croire, puis honnêtement, je pense que j'ai pas lu le cadre et tout ça, mais je pense que si on réussit à faire appliquer sur cette loi-là...
Ça devrait être un bon début.
À toutes les provinces, mais sans permettre aux provinces de passer outre cette loi, c'est un bon début.
Bon, très bien. Laurent Morissette du Raplic, merci beaucoup. Carole Zambiello de l'Institut Nazareth et Louis Braille, merci. Yvon Provencher, Durham, merci encore, et Ghislaine Goulet, merci. Alors, on dit ensemble...
Merci, Benoît.
Merci, espérons une vraie reconnaissance des droits pour tous et toutes.
Espoir. Tout à fait.
Voilà.
Espoir, oui.
L'espoir.